ce qu'on peut faire, c'est quand même prier, parce qu'il y a, on peut penser à Jacqueline qui a le Covid et qui a toujours de la fièvre aujourd'hui. Donc on peut penser à elle dans la prière. Je sais que beaucoup dimanche on était avec elle. Donc voilà, c'est surveillé. Et on peut penser à Madame Brunet aussi, hein, qui s'est fait opérer. Donc vous avez suivi les mains de toute façon. Hein, elle est toujours à l'hôpital. Bon, c'est vrai que les enfants ont dit comme ça qu'il ne vaut mieux pas de visite, mais enfin, on peut la remettre dans la prière, enfin, on peut la remettre au Seigneur. Et je crois qu'il y a Maggie, elle était aujourd'hui encore, elle toussait beaucoup, mais elle était encouragée. Elle m'a dit de faire un clin d'œil à Sylvia.
Je vais l'avoir jeudi.
Donc, je sais.
Ah, quel général.
Donc, voilà, je te le fais. Donc, et on peut prier aussi que le Seigneur vraiment nous conduise ce soir. Le thème que nous allons avoir, c'est surtout, on va parler de Dieu, de la nature de Dieu, et de ses attributs. Parler de Dieu, c'est pas une mince affaire, donc que le Seigneur vraiment nous conduise par son esprit et que vraiment nous puissions être touchés au plus profond de nous-mêmes. Alors peut-être, David, tu veux prier ça?
Et notre Dieu, notre Père, encore un grand merci de nous réunir ce soir autour de ta parole, entre frères et sœurs, de la même famille. Et c'est vrai qu'avant de commencer ce moment, nous voulons te remettre tout ce qui passe par des épreuves, et notamment Jacqueline, Madame Brunet. Nous voulons aussi te remettre Maggie. Et nous profitons aussi pour te remettre tous les membres de nos familles qui ne te connaissent pas encore. Nous prions encore à toi pour que tu puisses puisse les visiter et qu'ils puissent vraiment se tourner vers toi. On te les remet vraiment de tout notre cœur. Et on veut te remettre cette soirée encore. Et c'est vrai qu'on veut encore apprendre de toi pour que tu puisses toujours plus vivre en nous, que le Seigneur Jésus puisse toujours plus vivre en nous et que nous puissions te regarder, toi et toi seul, et ainsi vivre cette vie richement. Voilà, nous te remettons encore Georges ce soir, et on se remet tous entre tes mains aussi pour que tu puisses vraiment verser ton amour en nous. Pour toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.
Alors, on ne va pas changer les habitudes, donc on n'a pas de diapo, mais on va faire... J'ai fait des feuilles. Des feuilles, c'est le plan un peu de ce que nous allons voir. Alors, vous allez pouvoir les distribuer.
La
première page, c'est la nature de Dieu. Après, j'espère qu'on aura le temps, on verra les attributs de Dieu. Alors derrière les attributs de Dieu, vous allez voir qu'il y a une grosse tache. Excusez-moi, mais quand j'ai voulu aller faire la photocopie, il y a eu de l'eau, et j'ai fait ça, et j'ai dit, mince, mais j'étais devant la photocopie, je n'ai pas vu ça. Donc ce côté, il est taché. Bon, c'est pas trop important. Voilà. Donc, on va commencer notre étude. Alors, c'est vrai que... Il y a déjà deux semaines maintenant, hein, puisqu'on entrecoupe les études bibliques de l'Église avec un mardi réunion de prière à l'Église et réunion aussi de quartier. Donc là, ça fait trois semaines qu'on ne s'était pas réunis ici pour les études bibliques. Et la dernière étude, c'est Josias qui l'avait faite. Et la première étude, c'était sur le thème « La révélation ». C'est que Dieu se révèle à travers la parole, et ce soir aussi, ben, nous allons continuer à regarder à travers la parole de Dieu, hein, comment Dieu se révèle à nous, comment Dieu se révèle de sa personne, sa nature, et on va faire deux études, c'est-à-dire aujourd'hui on va voir spécialement sur la nature de Dieu, et la prochaine fois ça sera sur la Trinité. Donc on parlera un peu plus de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit mardi prochain. Alors, c'est vrai que parler de Dieu, on ne peut pas parler de Dieu comme on parle à un petit copain. C'est avec respect et c'est avec humilité que ce soir nous allons essayer d'approfondir ce thème. Et, je vous avoue que c'est avec, encore, je le dis souvent, mais c'est vrai, c'est avec tremblement et avec une certaine inquiétude qu'il y a, mais bon, le Seigneur, il est au milieu de nous, c'est lui qui nous renouvelle, c'est lui qui nous donne la force. Alors, on va avancer. Donc, notre première étude sera sur son essence et ses attributs. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que c'est vrai, enfin, on avait vu que le thème principal, c'est la révélation. Et je crois que si on n'avait pas la parole de Dieu, je crois que pour nous, en tant qu'humains, on ne serait pas capable de connaître Dieu, de nos propres forces. Si Dieu ne se révélait pas à nous, je ne vois pas comment on pourrait le connaître. Nous avons tout dans la parole de Dieu, et c'est sur la parole de Dieu que nous voulons vraiment nous baser. Alors, nous allons voir pas mal de passages qui nous parlent justement de Dieu. Donc, les termes essence et substance sont presque synonymes quand on les applique à Dieu. Dieu est sa propre essence. Ça veut dire que sa définition, c'est que Dieu, il existe. Il existe d'éternité en éternité. Et d'ailleurs, j'ai marqué sur les feuilles que vous avez, il y a encore des places peut-être, dans Exode.
Au milieu, là.
Ouais. Ah, je vais chercher les feuilles. Je sais un peu plus pour moi.
À côté de Jean.
Il va falloir agrandir les tables. Je ne sais pas s'il reste des feuilles. Il y en a une, mais c'est que. Donc je disais que bon, c'est dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui se révèle. Et on peut prendre un passage où, dans l'Exode déjà, hein, au niveau de l'Exode chapitre 3, verset 14. Voilà ce que Dieu nous dit. Alors, comme on va avoir plusieurs, celui qui ont les premiers versets, ils peuvent les lire.
Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. »
Voilà. Donc déjà, on voit que Dieu, il est celui qui est. Hein. Donc, il est de toute éternité. Dieu est l'être suprême, il est unique, créateur de toutes choses. Et on voit déjà... vraiment, l'éternel, il est celui qui est. Et personne ne subsiste avant lui, et on va le voir un peu plus loin. Donc, on sait aussi que Jésus, il a dit que Dieu est esprit. Dans Jean, au chapitre 4, verset 24, on ne va pas le prendre, mais il est dit que Jésus, il dit que Dieu est esprit. Eh bien, cette déclaration définit vraiment la nature de Dieu comme spirituelle. Dieu est spirituel. Et alors, on va voir, bon là je vous ai donné des feuilles, on va voir hein, que Dieu est immatériel et incorporel, on va voir Dieu est invisible, Dieu est vivant, Dieu est une personne, Dieu est sensible, etc. etc. Alors c'est vrai que ce thème, il est tellement vaste qu'on pourrait, on aurait pu rajouter beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on est limité à une heure de temps, donc on va se tenir à ce que j'ai noté, hein, parce que c'est vrai qu'en une soirée, on n'a pas le temps de tout voir. Alors, Dieu est immatériel et incorporel. On peut prendre dans Exode au chapitre 20, verset 4.
Verset 4.
Oui, pardon, j'ai marqué...
44,
ouais, non, c'est verset 4, j'ai fait une erreur.
« Tu ne feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux, plus bas que la terre.
Oui. C'est ça. Très bien. Et on peut lire aussi Lévitique, chapitre 26 et verset 1.
Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu.
Voilà. Donc c'est vrai que on ne peut pas avoir une image de Dieu. Hein. Pas d'image, pas de figure pour se prosterner. On ne peut pas, comme certaines idoles, se représenter Dieu. Dieu est au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser, et je pense qu'il n'est pas bon pour nous de pouvoir se faire une image de Dieu, de le représenter d'une manière ou d'une autre. Pourtant, c'est vrai que la Bible décrit que Dieu... avec une apparence humaine, parce que dans Ésaïe au chapitre 65 verset 2, il est parlé de que Dieu il a des mains. Alors si vous voulez prendre Ésaïe, quelqu'un d'autre peut prendre, parce que j'ai mis les références, d'autres prennent Genèse 3 verset 8 et 1 roi chapitre 8 verset 29 et Néhémie, on peut le voir. C'est vrai que on ne peut pas se faire une image de Dieu, et pourtant la Bible nous dit que Dieu a des mains, a des yeux, etc. On va le lire.
J'ai étendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées.
Voilà. J'ai étendu mes mains, donc on s'aperçoit que Dieu a des mains, des pieds, Genèse 3, verset 8.
Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin.
Oui, alors je ne sais pas si bien le verra.
C'est la voix.
C'est la voix.
Ah, c'est la voix, pardon. La voix. Ok. Et donc, 1 roi, chapitre 8, verset 29.
Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu.
Voilà, que tes yeux, et on peut voir Néhémie, chapitre 1, verset 6.
Prête attention à la prière de ton serviteur, que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment.
C'est encore parler des yeux.
Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts.
Voilà, ton oreille et tes yeux soient ouverts. Et on peut lire aussi le psaume 34, verset 16. Alors, je ne l'ai pas noté. Psaume 34, verset 16.
Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris.
Voilà. Alors, c'est vrai que tout qui nous est parlé des mains, des oreilles, des yeux de Dieu, tout ça, ce sont des représentations qui forment une apparence humaine. Et cela démontre bien que Dieu est bien réel. Dieu est esprit et il est infini. Et d'ailleurs, il nous est dit que même le ciel est son trône et que Dieu n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes. Il est au-dessus de toute chose. Alors ça, c'était pour la partie Dieu immatériel et incorporel. Maintenant, nous allons passer à Dieu est invisible. Là aussi, nous allons prendre dans l'Exode au chapitre 33, verset 20. Dieu est invisible, et c'est vrai que personne n'a vu Dieu le Père.
L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre.
On peut lire aussi dans Jean, chapitre 1, verset 18.
Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître.
personne n'a vu Dieu. Et d'ailleurs, aussi, dans Colossiens, au chapitre 1, verset 15, Paul appelle Dieu le Dieu invisible. Alors, c'est vrai que on ne peut pas le voir, mais il est vrai que certains hommes ont dit dans la Bible qu'ils ont vu Dieu. Alors, par exemple, dans Genèse au chapitre 32, verset 30, Jacob a dit « J'ai vu Dieu face à face ». Vous vous rappelez, hein? Et dans Exode aussi 33, verset 20, Dieu dit à Moïse « Tu ne pourras pas voir ma face ». C'est vrai que ce que Moïse a vu, c'était juste une lueur de la gloire de Dieu. Et Jacob, lui, ne prétend pas avoir contemplé Dieu dans toute sa gloire. Il affirme simplement avoir vu l'ange de l'Éternel. Et voir face à face Dieu n'a pas toujours le même sens. Il m'arrive parfois, moi, de dire « j'ai vu la main de Dieu ». Je ne sais pas si ça vous arrive de dire « tiens, là, j'ai vu la présence de Dieu, j'ai vu la main de Dieu le Seigneur m'a beaucoup gardé, moi j'ai vu la main de Dieu des fois quand j'ai eu un accident, vraiment, on le dit, mais ce n'est pas pour autant que j'ai vu Dieu. Hein? Parce que c'est clair que personne ne pouvait voir Dieu. Et quand Jacob dit « j'ai vu Dieu face à face », il n'a pas vu Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, parce qu'on a bien lu que personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est vrai que tout comme on peut regarder le soleil sans être aveuglé, l'ange de l'Éternel est une manifestation visible de Dieu. On peut lire Exode, chapitre 3, versets 2 à 6.
Version Semeur. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui, pourtant, ne se consumait pas. Il se dit alors... « Je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. » L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et il l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, je suis là, » répondit Moïse. Dieu lui dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. » Puis il ajouta, « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se couvrit le visage, car il craignait de regarder Dieu.
Moïse a vu, c'est vrai, Dieu par derrière. Hein. Il a contemplé juste une lueur de la gloire, de la grandeur, de la magnificence de Dieu. Alors voilà un peu pour la partie de l'invisible de Dieu. N'hésitez pas, hein, s'il y a d'autres passages qui vous viennent à cœur, hein, sur l'impossible de voir Dieu face à face, de voir Dieu dans toute sa gloire. Hein. Alors, on peut passer à la troisième étape, c'est Dieu est vivant. Alors, c'est vrai que dans Josué 3, verset 10, Dieu est appelé le Dieu vivant. On le lit aussi dans, bon, je n'ai pas marqué les références, mais c'est dans Josué 3, 10, hein, Dieu est appelé Dieu vivant. Dans 1 Samuel au chapitre 17, verset aussi 28, eh bien, là aussi il est appelé le Dieu vivant. Mais lisons Matthieu au chapitre 16, verset 16.
Matthieu 16, 16, Simon-Pierre lui dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant.
Voilà. Tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Donc c'est adressé là aussi hein, à Jésus. Hein. Il est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il est souverain, il est souvent mis en contraste avec les idoles mortes. On peut prendre Psaume 115, versets 3 à 9.
Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut, mais leurs idoles sont d'argent et d'or, fabriquées par des hommes. Elles ont une bouche, mais ne peuvent pas parler. Elles ont des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles qui n'entendent rien. Elles ont des narines, mais qui ne sentent rien. Elles ont bien des mains, mais ne peuvent toucher. Elles ont bien des pieds, mais ne peuvent marcher. De leur gorge, jamais aucun son ne s'échappe. Ils leur ressemblent, tous ceux qui les fabriquent, tous ceux qui mettent leur confiance en elles. Jean d'Israël, mettez votre confiance en l'Éternel, il est votre secours et votre bouclier.
Là, c'est un encouragement pour nous aussi à regarder à ce Dieu qui est vivant et non, et non dans les statues qui ne voient pas, qui n'entendent pas. On est encouragé vraiment à se tourner vers ce Dieu qui est vivant et je crois que nous devons prendre confiance aussi et conscience que quand nous adressons à Dieu, eh bien, il est vivant. Et ça doit vraiment nous encourager. On ne prie pas simplement ou on ne se met pas à genoux devant une idole parce qu'eux, ils ne l'entendent pas, mais on se met à genoux, on s'adresse à celui qui est vivant et qui nous entend. Et ça, c'est pour nous, c'est un encouragement de savoir je peux tout apporter au Seigneur. Il m'entend, il écoute, hein, il est ce Dieu vivant. On peut lire aussi Actes, chapitre 14, verset 15. Hein. Comparé aux idoles, toujours. Hein.
Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve.
Voilà. Hein, on est encouragé là aussi à se tourner vers celui qui est le Créateur, celui qui a tout fait. Et c'est vraiment, en regardant ces passages, je me disais, ben, c'est vrai que le privilège que nous avons de pouvoir avoir ce Dieu-là, Dieu est vivant, il voit, il entend, il nous aime, alors que les idoles sont incapables de voir ou d'aimer. Alors, on va continuer. Dieu est une personne. Alors, c'est vrai que Dieu est une personne, mais cela ne veut pas dire qu'il est un être humain. Cela veut dire qu'il a une personnalité. Il est un être rationnel. Dieu parle. On peut lire Exode chapitre 20, versets 1 et 2.
Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. »
Voilà. Là, il parle, il dit. Hein. Il prononce toutes ces paroles. « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Et ce qui est encourageant pour nous, c'est qu'aujourd'hui, Dieu nous parle et il se révèle à travers la parole. Dieu parle. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on peut lui parler. On voit Moïse, il dit dans sa prière, et quand il s'adresse à Dieu, il lui dit « Tu as été pour nous un refuge. » Donc Dieu nous parle et Moïse parle et quel privilège que nous avons aussi de pouvoir prier. Et aujourd'hui, je crois que le Seigneur nous dit la même chose. Dieu est encore un refuge aujourd'hui. Il ne change pas. Il nous parle par sa parole, son esprit. Et on peut lui parler comme Moïse l'a fait. C'est un grand privilège. Quand nous prions, on ne s'adresse pas à une idole, on ne s'adresse pas à une statue. Il n'entend pas. Dieu entend. L'Écriture présente Dieu comme ayant les caractéristiques psychologiques de sa personnalité. Dans Exode, chapitre 3, verset 7, si vous voulez le prendre.
J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs.
Voilà, il connaît nos douleurs, il a entendu. Dans Actes chapitre 15, verset 18, on voit là aussi l'intelligence de Dieu. Actes 15, verset 18.
Lui qui réalise ces choses qu'il avait préparées de toute éternité.
Voilà, il a tout préparé. Et on voit aussi que l'Écriture parle aussi de la sensibilité de Dieu. Genèse chapitre 6, verset 6.
L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur.
Voilà, Dieu est aussi affligé. Il a les caractéristiques d'une personne. On voit son intelligence, sa sensibilité. On peut lire aussi psaume 103, versets 8 à 14.
L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté, il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère, il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits.
Ça, c'est un passage qui serait intéressant de connaître par cœur, qui nous encouragerait. Voilà ce que Dieu est. Moi, je l'ai souligné pour le relire. Ce passage, c'est un encouragement pour nous. Vous connaissez aussi, bien sûr, Jean 3,16, on ne va pas le lire. Hein, l'amour que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à la vie éternelle. Voilà ce Dieu merveilleux que nous avons. Dieu parle. On l'a vu dans Genèse au verset 1, Genèse 1, 3. Il dit, il entend. On peut voir aussi dans le psaume 94, verset 9. Il entend. Il est affligé dans Genèse aussi, chapitre 6, verset 6. Hein, il est miséricorde. Le psaume 111, on ne va pas le lire. Et Dieu, aussi dans Exode au chapitre 20, verset 5, il nous est dit, il est un Dieu jaloux. Alors bien sûr, quand on entend Dieu jaloux, on se dit, oulala, mais ce n'est pas une qualité. Mais Dieu, lui, il nous aime. Et il, en retour, si nous donnons notre amour aux idoles, au monde, il y a de quoi être jaloux, alors que parce que lui, il a tout fait. Il est éternel. Il est infini par rapport au temps. Il n'a ni commencement ni fin. En fin de compte, il est le temps. Je crois qu'il y a un passage à la Bible qui dit que 1000 ans est comme un jour pour Dieu, et un jour comme 1000 ans. Le temps ne compte pas. Il est éternel. L'Écriture enseigne à maintes reprises que Dieu, il est éternel. Dans Genèse au chapitre 21, verset 33, si vous voulez le prendre.
Abraham planta un tamaris à Beersheba et il a 21, oui, c'est ça.
Genèse 21, verset 33.
Abraham planta un tamaris à Beersheba et il invoqua l'Éternel, le Dieu d'éternité.
Voilà. Il appelle le Dieu d'éternité. Le psaume 90, verset 2, il est dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Dieu seul possède l'immortalité. On peut lire dans Habacuc, chapitre 1, verset 12.
N'es-tu pas de toute éternité, éternel, mon Dieu, mon Saint ? Nous ne mourrons pas. Hein.
N'est-ce pas merveilleux, ça ? Il est immortel. Alors, ouais, je vois que ça fait déjà une demi-heure et on va arrêter là au niveau de la nature de Dieu, de ce qu'il est. Alors j'ai pris quelques noms ensuite, les noms de Dieu. Alors c'est vrai que moi j'en ai marqué 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y en a pas que 5. Je crois qu'il y en a, je ne vous ai pas compté, je me suis arrêté à 20 je crois, mais je ne sais pas s'il y en a plusieurs, des noms que certains ont donné, des noms qui lui est attribué et tout ça. Et je me souviens quand moi j'étais petit, c'est le cas de le dire, il y avait là où il y avait ma tante, il y avait un homme qui s'appelait Petit. Et il était petit. Et on m'avait dit, mais à l'époque on donnait des noms par rapport à la personnalité de la personne. Donc là on a des noms de Dieu. Et je crois que sa caractéristique, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais vraiment ce que Dieu est. Par exemple, les noms de Dieu, Elohim en français, c'est Dieu créateur. On le voit en Genèse au chapitre 1, que Dieu au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et c'est vrai que Elohim est un nom en hébreu, mais voilà, il est traduit comme créateur. Alors je ne sais pas si je me trompe, j'ai lu ça, je pense que c'est ça. C'est celui qui a créé toutes choses. On le voit dans Genèse 1:1 et le psaume 121 aussi, versets 1 et 2, on peut le lire. Le psaume 121, versets 1 et 2.
Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre.
Voilà, qui a fait les cieux et la terre. Alors, il y a aussi le nom de Dieu, El Shaddai, hein, ce qui veut dire Dieu Tout-Puissant. Et nous avons aussi Abraham, hein, qui donne le nom de Yahvé Jiré, hein, ce qui veut dire l'Éternel pourvoira. Ça, c'est quand Abraham a été avec son fils Isaac, et quand Isaac lui demande... où c'est qu'il y a l'animal à sacrifier, et Dieu, Abraham dit Dieu pourvoira, et c'est pour ça qu'Abraham donne ce nom Yahvé Jiré. Il y a Yahvé aussi, hein. Je suis celui qui est, on l'a lu dans 3:14. Et dans Deutéronome, au chapitre 6, verset 4, il est appelé Yahvé Raphat, ce qui veut dire ou Rapha, je ne vois pas pourquoi je dis Raphat. Hein? Il est appelé Yahvé Rapha, ça veut dire celui qui guérit. Hein? Nous voyons quand même que, des noms lui sont donnés, hein, parce que c'est sa caractéristique, dise vraiment ce que Dieu est. Alors, excusez-moi, je prononce mal les mots, des fois. Hein? Alors, de ce que nous avons vu, je vais vous poser une question. De ce qu'on a vu un peu, de la nature de Dieu, de ce qu'il est visible, ce Dieu merveilleux, tout ça, avec ses noms, qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que cela, ce qu'on a vu, qu'est-ce que vous pensez? Il y a un tout, c'est vrai.
Infini.
Que malgré ce caractère infini, il s'intéresse à nous et il est, il veut être près de nous et comme un cœur de père, quoi.
C'est vrai. Et moi, je m'étais posé cette question aussi et je m'étais dit, mais voilà, ce Dieu si grand, si merveilleux, si tout puissant. Il parle au tonnerre, il parle à la mer et tout. Et qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? C'est quand même un encouragement pour nous de savoir un tel Dieu. Eh bien, il est venu pour l'homme pécheur. Et moi, ça nous dépasse. Et dans Jean, au chapitre 5, verset 26, hein, ce qu'on peut aussi, ce qui peut nous inspirer, c'est qu'il a la vie en lui-même. Il est le premier, il est le dernier. Dans 1 Roi, au chapitre 8, verset 27, Dieu est sans limite et rien ne peut le mesurer. Il est au-dessus de tout. Dans Matthieu, chapitre 9, verset 26, hein? Dieu a toute autorité. Waouh! Et nous nous adressons à ce Dieu-là. Ça me dépasse. Je vous avoue que c'est extraordinaire que le Seigneur, quand même, hein, il nous entend, on l'a vu. Il nous parle. Il nous encourage. C'est un Dieu merveilleux. Et tous les noms de Dieu ne sont pas que des titres donnés. mais c'est son caractère, c'est sa personnalité. Il est comme ça. Il est amour. Et Dieu aime le pécheur. Et aujourd'hui, qui que nous soyons, eh bien Dieu nous aime. Et aujourd'hui, on va le voir dans les attributs, on va voir la patience de Dieu, on va voir son amour, sa miséricorde. Et là aussi, il a fallu faire un choix, la liste. J'ai vu d'ailleurs, en rentrant, j'ai souri, j'ai vu à aucun, quand vous étiez à aucun, il y a... vous avez marqué ce qu'il est infini, j'ai vu, il est fidèle, il est patient, il est. Et j'ai dit, ben oui, oui. Et c'est notre Dieu. Hein? Quelle grâce. Alors, nous allons continuer. Hein? Alors, on va tourner les pages. Alors, je. Regardez pas les tâches, peu importe, c'est pas grave.
J'ai réussi à faire la même tâche, c'est peut-être
fait. Oui, parce que j'ai fait la photocopie. Et quand je les ai fait, après, j'ai dit à la personne, il me dit oui, mais ça va rester, mais j'ai dit, mais j'ai que celle-là. Alors,
tu sais faire plusieurs tâches à la fois.
Hein?
C'est ça.
Oui, merci. C'est pas mal. Donc, alors, on va voir maintenant les attributs, hein, les attributs de Dieu. Alors. Là aussi, hein, je vous dis, il a fallu, on pourra en rajouter, c'est infini, les attributs de Dieu. Hein. Alors, les attributs de Dieu sont classés de différentes manières. Hein. Une des plus connues, c'est celle qui les divise en attributs naturels. C'est-à-dire que, voilà, il est comme ça, il est, c'est sa nature, c'est les attributs de Dieu. Hein. Et personne, hein, personne ne peut l'égaler. Dieu est comme ça. Alors, on va voir dans Ésaïe 40, verset 18, je crois qu'il y a une erreur, pas le verset 15. On va voir...
18.
Ouais, verset 18. Ésaïe 40, verset 18.
À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle représentation dresserez-vous de lui?
Voilà. On ne peut le comparer. Et on ne peut non plus se faire d'image de sa personne. Dieu ressemble à personne. Et Dieu utilise le même vocabulaire pour décrire les mêmes expressions qui s'appliquent à l'homme. Quand Dieu parle, on l'a vu, quand Dieu parle de ses mains, de ses pieds, de ses yeux, de ses bras, hein, de sa bouche, cela ne signifie pas qu'il possède des organes. Et pas plus qu'il sous-entend qu'il ressemble à un oiseau ou à une poule. Alors je m'explique. Dans le psaume, prenons le psaume 91, verset 4.
Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Voilà. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Voilà, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse à retenir. Mais, hein, il te couvrira de ses ailes, de ses plumes, hein, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ce n'est pas pour autant que Dieu est un animal. Mmh. Vous comprenez ce que je veux dire,
mmh. Hein?
C'est des images.
C'est comme un grand petit lapin. C'est pas... Non, je n'en prenais pas
un petit lapin. Oui, oui. Ah oui, exactement. Hein? C'est exactement des images qui sont données.
Il nous allons comprendre son action pour nous.
Voilà, tout à fait. Dans Job, chapitre 11, verset 7. Je vais le prendre.
Job,
chapitre 11, verset 7.
Prétends-tu pénétrer les profondeurs de la pensée de Dieu? Prétends-tu découvrir ce qui touche à la personne du Tout-Puissant?
Ouais. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu pour parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Vous savez, nous ne pouvons connaître de Dieu que ce qu'il veut que nous sachions de ce qui se révèle dans sa parole et rien de plus. N'essayons pas de chercher, hein, des choses que, qu'on pourrait inventer ou imaginer. Dieu se révèle dans la parole de Dieu comme il est, comme il le dit, et n'essayons pas de chercher autre chose. C'est vrai que certains concepts dépassent les limites de notre entendement, oui.
Non, il y avait juste deux choses qui... un verset qui me revenait dans Romains, où il y a deux choses qu'il est dit qu'on peut discerner de Dieu et au travers de la création, c'est sa puissance et sa divinité. Mmh. Ce sont les deux seules choses qu'on peut mmh. voir. Mmh. Le reste, ouais, est là. Comme
c'est vrai. Alors, on va voir donc quelques attributs de Dieu que Dieu seul possède. Hein. Il est auto-existant. Dans Jean, au chapitre 5, verset 6. Pardon, 26. Jean, chapitre 5, verset...
Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même.
Ouais. Il a la vie en lui-même. Et ça, personne d'autre ne peut avoir la vie en lui-même. Christ est la vie. Il est issu de rien d'antérieur à lui. On l'a vu, Exode 34, 3, verset 14, et Apocalypse, chapitre 4, verset 8. Hein, nous l'avons dit, il est celui qui est d'éternité en éternité. Il est le Dieu. Et il englobe le passé et l'avenir. Vous voyez, Dieu est auto-existant.
C'est d'ailleurs le miracle que les scientifiques n'arrivent pas à expliquer. Ils ont beau mettre tous les ingrédients pour essayer de que la vie se produise comme ça, mais c'est vraiment le moment où la vie arrive, c'est un moment miraculeux. Mmh, mmh. Il n'y a que Dieu qui peut donner la vie.
Ouais, oui. Tout à fait. Dieu est tout puissant. On peut lire Matthieu, chapitre 19, verset 26.
Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Mmh. »
Mmh. Il est le Tout-Puissant. Et on peut lire aussi Job, verset 40, chapitre 42, verset 2.
« Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées.
Voilà. » Il peut tout, et rien ne s'oppose à ses pensées. Qu'on appelle ça omnipotent.
Oui.
Hein?
Oui.
Omnipotent.
Rien ne s'oppose à ses pensées. On peut aussi voir qu'il est immuable. C'est vrai qu'il peut changer d'action, mais il ne change jamais de ce qui, en ce qui concerne sa personnalité éternelle et ses objectifs. On peut lire Malachi, chapitre 3, verset 6.
Moi, je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. Mmh.
Voilà, il peut changer d'action, mais il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mmh. C'est vrai que lui, l'homme, change beaucoup. Mais Dieu, il reste le même. Et son amour, sa fidélité, sa patience, eh bien, hein, ne change pas. On a d'autres références dans Jacques, au chapitre 1, verset 17. Si vous voulez le lire, au niveau de... Il est immuable.
Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, ouais. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation.
Il n'y a ni ombre de variation, ni changement. il n'est pas inconstant, hein, il n'est pas non plus infidèle. Hein, c'est vrai que ce qui n'est pas le cas de l'homme. Ah, c'est un grand Dieu, hein. Et c'est vrai que je pense que même nos mots ne peuvent pas exprimer humainement ce que Dieu est. On a beau essayer de chercher, de voir ce que Dieu est, mais c'est... Il y a un cantique qui dit d'ailleurs, c'est le cantique d'Alain Larry qui dit « c'est trop grand pour moi ». Ouais. Mais il est venu pour moi, il est venu pour moi. Il est omniprésent aussi. Il est partout et en même temps. On peut lire le psaume 139, versets 7 à 12.
Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière.
Eh oui, notre Dieu, il est partout et en même temps, et on ne peut lui échapper. Je crois que c'est même David qui dit que je me trouve, que je sois à l'Occident ou là, tu y es. Hein? Jérémie, on peut le lire, chapitre 23, versets 23 et 24. Hein?
Ne suis-je donc qu'un Dieu de près, demande l'Éternel? Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un, dit l'Éternel, pourrait-il se cacher dans un endroit secret sans que moi je le voie? Ne suis-je pas celui qui remplit ciel et terre, demande l'Éternel?
Il est omniprésent. Amos, chapitre 9, verset 2, on peut le lire peut-être aussi. Chapitre 9, verset 2.
Car ils s'enfoncent jusqu'au séjour des morts, ma main les en arrachera, s'ils montent jusqu'au ciel, je les ferai redescendre, s'ils se cachent au sommet du Carmel. Je les y chercherai et les attraperai, et s'ils plongent au fond des mers pour se dérober à mes yeux, je donnerai l'ordre aux serpents d'aller les mordre, s'ils partent en...
On ne peut lui échapper. Il est partout. On peut voir aussi, il est souverain, hein. Il dirige et contrôle tout, il réalise tout selon sa propre volonté. Éphésiens chapitre 1, verset 11.
En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestiné selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté.
Ésaïe 40, versets 13 et 14.
Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence?
Il est souverain en toutes choses. On peut lire aussi Romains, hein, il fait ce qui lui plaît. Là, Romains, chapitre 9, versets 15 à 18, on peut le lire aussi.
Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi mes puissances, ma puissance et pour que mon nom soit publié par toute la terre. » Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut.
Et aujourd'hui, le Seigneur nous montre aussi sa toute puissance. Alors ça devrait nous encourager vraiment à vraiment nous tourner vers ce Dieu merveilleux. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages, mais tout à l'heure on l'a dit, si Dieu se révèle comme cela, si on n'avait pas tous ces versets, on serait loin d'imaginer ce que Dieu est. Et on pourrait aussi parler de son autosuffisance, hein, mais on va s'arrêter là parce que je veux le retourner. Mais j'aimerais juste dire quelques mots sur les attributs de Dieu, où l'homme peut partager ses attributs. Là, on a vu ce que Dieu est et que personne ne peut les avoir. Et maintenant, on va voir des attributs où que l'homme est appelé aussi à avoir ses attributs. Alors, Dieu est amour. Dans Jean 3,16, on le connaît, hein, ce passage, on le connaît. Il est amour. Alors, c'est vrai que l'amour de Dieu, c'est un amour qui s'est sacrifié et s'est donné à pleinement pour que l'homme soit sauvé. Hein. Parce que Dieu est amour, c'est pour ça qu'il a donné son propre fils. Mais nous, l'homme, en retour, doit aussi aimer Dieu et son prochain. Et nous sommes appelés aussi. Parce qu'il nous est dit dans le commandement de Dieu, tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain.
Oui.
Dieu est amour. Mais nous sommes appelés, nous aussi, à aimer notre prochain. Ça, c'est des attributs hein, que l'homme, par, bien entendu, par l'Esprit de Dieu, c'est en vraiment se tournant vers Dieu que nous pouvons avoir cet amour, parce que là aussi, de nous-mêmes, dites-moi d'aimer mon ennemi ou d'aimer mon voisin s'il m'a embêté pendant des années avec ses sapinettes, je ne montais pas trop dans mon cœur.
C'est du vécu.
Et pourtant, nous devons prier pour nos voisins. Nous devons prier pour nos ennemis. Dieu est saint. Psaume 99, verset 9. Il n'y a ni mal, ni impureté en lui. Ésaïe 57, verset 15. On peut le lire aussi.
Ainsi dit celui qui est haut élevé et exalté, qui habite l'éternité, et duquel le nom est saint. J'habite le Dieu haut élevé et saint, et avec celui qui est abattu, et d'un esprit contrit, pour glorifier l'esprit de ceux qui sont contrits, et pour glorifier le cœur de ceux qui sont abattus.
Oui, Dieu est saint, hein. Et d'ailleurs, même les cieux chantent sa sainteté, hein. Mais l'homme, nous sommes appelés aussi à être saint, parce que lui, il est saint. 1 Pierre, chapitre 1, verset 16, on peut le lire.
Il est écrit, vous serez saint, car je suis saint.
Voilà. Donc, oui, nous sommes saints, et ce n'est pas par nos propres forces. Mais rappelez-vous, par le sang de Jésus-Christ, nous avons été justifiés. Et nous avons reconnu que nous sommes devenus saints par la grâce du Seigneur. Il est plein de miséricorde. Il nous apporte aide et soulagement riche. Et il est riche en miséricorde. Éphésiens chapitre 2, verset 4. J'avance un peu parce que je le retourne.
Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ.
Amen.
C'est par grâce que vous êtes sauvés. Yes.
La Bible nous encourage aussi à être compatissants les uns envers les autres. C'est une grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. Ensuite, il est la vérité. En lui, il n'y a ni fausseté ni infidélité. Nombre, chapitre 23, verset 19. Je ne sais pas si je l'ai marqué. Oui. Il est la vérité.
Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas?
Voilà. Et est-ce que nous prenons garde aux paroles de Dieu? Dieu ne parle pas en vain. Et parfois, on est des auteurs, des auditeurs, ben, je parle pour moi, des fois, sourds d'oreille. Oui, il est la vérité. Il est aussi, 1 Jean 5, verset 20, absolument fidèle. Et Dieu nous encourage à dire la vérité aussi. Comme lui, il est la vérité, il est fidèle, et bien, nous sommes aussi appelés à être fidèles en toutes choses et à dire la vérité. J'avance. Mais gardez-vous ces références, vous pourrez les lire si on ne les lit pas toutes. Il est patient. Oh, il est patient. Dieu est patient. Oh là là. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur pour ta patience envers moi. Et vous savez, il y en faut de la patience avec moi. La patience fait partie du fruit de l'esprit. Et nous sommes appelés aussi à porter le fruit de l'esprit. À être patient, à être dans la joie, etc. Dans Galates, au chapitre 5, verset, à partir du verset 22, on ne va pas le lire, mais vous le lirez. Et vous savez, Dieu a été patient aussi à la demande d'Abraham. Vous vous rappelez, quand Abraham s'approche pour Sodome et Gomorre,
ouais.
Hein, ça commence par 50. Hein, et ça finit ouais. par 5. Mmh. Quelle patience. Mmh. Hein, Dieu est patient hein, avec nous aussi. Hein. Dieu est sagesse. On ne peut sonder son intelligence. Ésaïe 40, verset 28.
Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence.
Mmh. Mmh. Je crois que, même il y a un passage qui dit comme ça, que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, c'est ça? Hein? Mais, est-ce qu'on peut parler de la folie de Dieu? Mmh. Enfin, ça démontre par là que, hein, par rapport à l'homme, on est vraiment, Dieu est au-dessus de toute chose. Alors, peut-être qu'on va finir, mais là, je vois qu'il est l'heure. C'est juste, j'aimerais simplement, oui, Dieu est bon, on va finir par là. La bonté de Dieu devrait nous conduire l'homme à la repentance. Romains au chapitre 2, verset 4, là, je vous encourage à prendre ce passage, on va le lire.
Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance?
Voilà. Est-ce que, tout à l'heure on a dit comme ça, qu'est-ce que ça nous inspire, qu'est-ce que c'est qu'on puisse ressentir par rapport à ce qu'on a dit? Bien, je crois que ce soir, tout ce qu'on a vu sur Dieu, ça doit nous pousser. Vraiment, à venir au pied de la croix.
Amen.
À venir dans la repentance de ce Dieu si grand, si merveilleux, qui a tant d'amour, et que parfois nous sommes fidèles, mais il est là. Il nous demande hein, de nous repentir, de venir. Hein. Il est à la porte. Et si on lui ouvre la porte de notre cœur, eh bien il va rentrer. Et on n'a pas besoin d'avoir de belles paroles. Hein? Ce qui est important, c'est de tout simplement demander au Seigneur, mais Seigneur, ouais, je réalise ce que tu es. Hein? Tu es venu pour moi, tu m'aimes, tu ne veux pas que l'homme meure. Eh bien, Seigneur, je veux rentre dans mon cœur. Et ça, je crois que peut-être ce soir, je ne sais pas, on peut peut-être, même quand on est chrétien, de prendre connaissance de ça, de vraiment réaliser, mais oui, Seigneur, oh, combien j'ai besoin de rentrer dans ton repos. Parce que lui ne change pas. Et nous, on a besoin. Hein, parce que souvent, nos vies, suffit qu'on soit un peu énervé, ça va vite. Dans la voiture, on est pressé. Qu'est-ce qu'il fait celui-là devant moi, hein? Non, mais Dieu, lui, ne change pas. Il nous tend la main. Alors, ce que ça peut nous inspirer ce soir, de devant un tel Dieu, de venir à ses pieds. Hein, vraiment, comme un enfant. Hein, ben Seigneur, ouais, je vous donne à toi. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, ce soir, nous sommes devant toi. Nos mots, c'est vrai, ne peuvent exprimer ce que toi tu es, mais à travers ta parole, qui est la vérité, nous avons pu voir, Seigneur, tous ces passages où tu te révèles, où tu nous dis ce que toi tu es. Tu es notre Père. Tu es l'Éternel, tu vis d'éternité en éternité, tu es l'Alpha et l'Oméga, tu es celui, Seigneur, qui a tout créé, tu es celui qui est venu nous pardonner, tu es celui qui a donné sa vie. Eh bien, ce soir, Seigneur, nous voulons prendre conscience dans nos cœurs, au plus profond de nous-mêmes, que nous avons tant besoin de nous approcher de toi comme un enfant qui s'approche près de son Père. Oh Seigneur, tu connais nos vies. Eh bien, que ce soir, que vraiment chacun de nous puisse prendre conscience que tu es ce Dieu merveilleux.
Amen.
Que nos paroles, c'est vrai, ne peuvent même pas trouver les mots, mais tu es l'Éternel Dieu. À toi la louange, à toi la gloire, Seigneur. Et merci de pouvoir, à travers ta parole, pouvoir te contempler. Oui, que nous puissions te contempler jour après jour, que nous puissions, Seigneur, te voir dans toute ta plénitude. Humainement, ce n'est pas possible, mais spirituellement, Seigneur, tu te révèles à nous. Alors merci et gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour toutes choses. Raccompagne-nous ce soir et que ton nom soit béni de génération en génération. Et oui, à toi, la louange, Seigneur. Amen.
Amen. Amen.